Roi Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du lundi 25 septembre 2017, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
Au Mali, nouvelle attaque contre la MINUSMA, 3 casques bleus tués.
À Mogadiscio, assassinat hier d'un haut responsable militaire somalien.
Le Tchad, ajouté au décret migratoire du président américain Donald Trump.
En Allemagne, la chancelière Angela Merkel, victorieuse, mais entrée historique de la droite nationaliste au Parlement.
En Irak, référendum d'autodétermination ce lundi dans la région autonome du Kurdistan.
Ici aux États-Unis, controverse entre le président Trump et les sportifs américains.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
À Gao, au Mali, 3 casques bleus ont été tués et 5 autres grièvement blessés tôt dimanche matin lorsqu'un véhicule de la MINUSMA a heurté un engin explosif. Précision de notre correspondant Kassim Traoré.
Les transporteurs sur les routes de Gao sont les premiers à se plaindre du nouveau mode opératoire des djihadistes et autres terroristes qui sont en train de mettre des mines et des engins explosifs sur les différentes routes. Des engins explosifs qui sont aujourd'hui à la base de plusieurs attaques. C'est ce qui est arrivé à un véhicule logistique de la MINUSMA qui a heurté un engin explosif dans la localité de Kobe, à 35 km de Gao sur la route menant à Afoud. Ce sont des casques bleus qui escortaient un convoi sur l'axe Anefif-Gao. Le bilan est de 3 casques bleus tués et 5 blessés, dont certains très graves, qui ont été évacués sur la ville de Gao. Sur le coup, une force d'intervention rapide a immédiatement été déployée sur les lieux pour sécuriser le périmètre et permettre la prise en charge des victimes. En tout cas, les attaques terroristes ont doublé d'intensité ces derniers jours dans les régions nord du Mali. Avant cette attaque matinale à Gao, il y a eu en milieu de semaine des obus lancés sur les camps de la MINUSMA à Kidal. Une triple attaque à la roquette revendiquée par le groupe de djihadistes maliens Yad Agali, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Nigeria, les procès de 1600 membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram détenus dans des camps militaires à travers le pays commenceront le mois prochain, a annoncé hier le ministère nigérian de la Justice dans un communiqué. Les affaires ont été attribuées par le ministre Aboubakar Malami à plusieurs procureurs et des avocats seront fournis aux suspects par le conseil d'aide juridique, précise le communiqué. Pour parler de l'enjeu de ces procès, Timothée Donangmaï a contacté le professeur de sciences politiques Oudou Ayouba de l'université de Zaria.
Les Nigériens attendaient ça depuis très longtemps pour qu'on sache vraiment ceux qui sont derrière Boko Haram. Il y a eu des accusations, il y a eu des soupçons, mais on ne sait pas exactement ceux qui sont derrière. Et tout le monde ici espère que ce jugement devant les tribunaux donnera des réponses à ces questions.
On parle de 1600 militants présumés de Boko Haram qui seront jugés. Qu'est-ce que cela représente comme défi au plan de la sécurité?
C'est vrai que c'est un grand nombre, 1600, c'est même plus. Bon, il y a ceux qui ont été arrêtés lors des combats et puis ceux qui ont été arrêtés dans les villes, les soutiens au Boko Haram, beaucoup de monde, personne n'a jamais été jugé. Il y a aussi des politiciens qui sont soupçonnés d'avoir aidé Boko Haram, tout ce monde-là. Donc, le monde attend.
C'était le professeur Oudou Ayouba, professeur de sciences politiques à l'université de Zaria, dans l'état de Kaduna au Nigeria.
La Côte d'Ivoire et le Ghana se sont engagés dimanche à respecter la décision du Tribunal international du droit de la mer sur leurs différends à propos de leurs frontières maritimes, promettant de collaborer. D'après cette cour, le Ghana n'a pas violé les droits souverains de la Côte d'Ivoire, comme l'affirmait Abidjan, qui considérait avoir un droit exclusif d'exploitation des hydrocarbures dans une zone offshore disputée.
À Mogadiscio, assassinat hier soir d'un haut responsable militaire somalien, selon des sources sécuritaires citées par le service somalien de la Voix de l'Amérique, le général Abdoulahi Mohamed Cheikh Kourourou et son garde du corps ont été abattus par des hommes armés alors qu'ils se rendaient à pied chez eux après avoir quitté une mosquée de la capitale Personne n'a encore revendiqué cet assassinat, mais on soupçonne les militants islamistes d'Al-Shabaab.
Washington a élargi dimanche son décret migratoire à 3 nouveaux pays. En Afrique, c'est le Tchad qui a été ajouté à la liste, tandis que le Soudan a lui été retiré de cette même liste des nations dont les ressortissants sont interdits d'accès aux États-Unis. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Le Tchad, la Corée du Nord et le Venezuela ont été intégrés à la liste des pays visés par le décret migratoire américain pour des manquements à la sécurité sur leurs voyageurs et un manque de coopération avec Washington. Le Tchad, bien qu'il soit un partenaire important des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme, a été ajouté, explique le décret, par la présence sur son sol de différents groupes djihadistes comme l'organisation État islamique, Boko Haram ou Al-Qaïda au Maghreb islamique. Par ailleurs, N'Djamena ne partagerait pas de manière adéquate les informations concernant la sécurité du public et le terrorisme. Les mesures de restriction sont différentes selon les pays. Tous les citoyens du Tchad et de la Corée du Nord sont interdits d'accès au territoire américain, alors que l'interdiction se limite aux membres d'une longue liste d'instances gouvernementales vénézuéliennes et à leurs familles. Le Soudan, l'un des 6 pays musulmans visés par le précédent décret, a été retiré de la liste. Le nouveau texte, qui entrera en vigueur le 18 octobre pour les 3 nouveaux pays, interdit ou limite l'entrée aux États-Unis des ressortissants étrangers de 8 pays au total, avec l'Iran, la Libye, la Syrie, la Somalie et le Yémen.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, plus de 100 joueurs, entraîneurs et propriétaires d'équipes de la NFL, la Ligue nationale de football américain, ont réagi par le défi aux critiques du président Donald Trump. Ils ont posé un genou à terre ou se tenaient par les bras plutôt que debout pendant l'hymne national au début de leur match d'hier. Pour M. Trump, une telle attitude constitue un grand manque de respect au drapeau national et à l'Amérique. Il a même suggéré aux fans de boycotter les matchs. Pour les protestataires, il s'agit au contraire d'un moyen d'attirer l'attention sur le traitement des minorités raciales aux États-Unis, y compris les incidents de brutalité policière contre les Africains-Américains. À un confrère qui lui demandait s'il n'était pas en train d'exacerber les tensions raciales dans le pays, M. Trump a déclaré que cela n'avait rien à voir avec la race, ajoutant qu'il n'avait rien dit sur la race. À noter aussi une autre controverse entre le président américain et deux vedettes de la NBA, la Ligue de football, la Ligue professionnelle de basketball, Steph Curry et LeBron James.
En Allemagne, la chancelière Angela Merkel, victorieuse, mais affaiblie par un score électoral plus faible que prévu, s'attelle ce lundi à la formation d'une nouvelle majorité face à la percée historique de la droite nationaliste et son entrée au Parlement. Le parti conservateur de Madame Merkel n'a recueilli que 32,9% des voix, son pire score depuis 1949. Une partie de l'électorat conservateur, 1 million de personnes selon les sondages, a rejoint l'alternative Für Deutschland, qui a obtenu 13%. Ce mouvement populiste a fait du rejet de l'accueil massif des migrants décidé par la chancelière en 2015 son cheval de bataille.
En dépit des injonctions des autorités de Bagdad et même d'un arrêt de la Cour suprême irakienne ordonnant une suspension du scrutin, la région autonome du Kurdistan tient ce lundi son référendum d'autodétermination. Le vote a commencé. Les précisions de Timothée de Langmaï.
Les dirigeants kurdes irakiens entendent bien poursuivre la marche vers l'indépendance. Dimanche, le président du gouvernement régional du Kurdistan irakien, Massoud Barzani, a appelé les habitants à se rendre massivement aux urnes et à voter dans la paix. Nous sommes parvenus à la conclusion que l'indépendance nous permettra de ne pas répéter les tragédies du passé, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Erbil, la capitale régionale, ajoutant « Le partenariat avec Bagdad a échoué et nous n'y retournerons pas ». Cependant, Massoud Barzani a assuré que le résultat du scrutin ne changera rien dans l'immédiat, mais qu'il déclencherait plutôt des pourparlers avec Bagdad sur une indépendance future. Le premier ministre irakien Haider al-Abadi a fait savoir de son côté qu'il prendra toutes les mesures nécessaires pour préserver l'unité du pays. Déjà, le gouvernement irakien a demandé à tous les pays de ne traiter qu'avec lui pour les transactions pétrolières. À la demande des autorités irakiennes, l'Iran a cessé dimanche ses liaisons aériennes avec le Kurdistan irakien.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco Yacouba Ouédraogo.
Selon les prévisions de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, la production céréalière mondiale devrait atteindre un niveau record en 2017, évalué à 2611 milliards de tonnes. Des gains majeurs sont attendus sur les récoltes en Argentine et au Brésil, et une hausse de la production de 10% est attendue en Afrique cette année, tirée par les récoltes de maïs en Afrique australe et celle de blé dans les pays nord-africains. Le président tanzanien John Magufuli a ordonné la construction d'un mur autour des mines de tanzanite afin de lutter contre les exportations illégales et mieux contrôler la vente de cette pierre précieuse extraite uniquement dans ce pays d'Afrique de l'Est. Un rapport parlementaire publié début septembre assure que l'extraction de la tanzanite profite essentiellement aux exploitants et aux trafiquants, une situation attribuée à la corruption dans le secteur et à des contrats défavorables. À Madagascar, le Fonds monétaire international annonce une baisse de la production économique qui va passer de 4,5% comme initialement prévu à 4,1%. En cause, les chocs climatiques qui ont frappé la grande île, victime à la fois d'une sécheresse et du cyclone Enao, qui a fait 78 morts et ravagé les cultures en mars 2017.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football, les quarts de finale retour de la Ligue africaine des champions ont eu lieu ce week-end avec des surprises.
Oui, l'élimination du tenant du titre, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, sorti au tir au but par le Wydad de Casablanca. C'est fini aussi pour l'Espérance de Tunis, battu 2-1 par Al Ahly du Caire. Ça passe en revanche pour le second représentant tunisien, l'Étoile du Sahel, vainqueur des Libyens d'Ali Tripoli 2-0-0-0 à l'aller, tout comme l'USM Alger face au Mozambicain de Ferroviarum de Beira. En début finale donc, on aura WAC, USM Alger et Étoile du Sahel à l'aller.
On a joué également le dernier carré en Coupe de la Confédération.
Et ça passe pour le tenant du titre, le TP Mazembe, facile vainqueur des Soudanais d'Obeide en aller-retour. 2-1 et 5-0. En demi-finale, les Corbeaux vont croiser les Marocains du FUS de Rabat qui ont écarté les Tunisiens du Sfax. L'autre demi-finale mettra aux prises les Sud-Africains du Supersport aux Tunisiens du Club Africain, vainqueur du Mouloudia d'Alger.
Tournoi de l'UFOA épilogue à Cape Coast au Ghana.
Oui, et le pays hôte est sorti vainqueur de cette édition de 2017. Les Black Stars ont facilement dominé en finale les Super Eagles du Nigeria 4-1 en présence de Ahmad Ahmad, président de la CAF. Le Niger remporte la petite finale devant le Bénin, score de 1 et termine troisième.
On reste au Ghana, Élisée, pour parler de cette annonce, la CAF, qui décide de retirer au Kenya l'organisation du CHAN 2018.
Effectivement, Idrissa, cette décision est justifiée par des retards accumulés dans l'évolution des infrastructures trop importants, selon le communiqué de la CAF. N'oublions pas aussi la situation politique très tendue que traverse actuellement le pays. La Confédération africaine de football, dans l'urgence, va devoir donc activer un plan B quand on sait que la compétition est initialement prévue en début de l'année 2018.
Autre décision et bonne nouvelle pour le Cameroun, la CAN 2019 est toujours confiée au pays.
C'était l'autre dossier chaud, très attendu à Cape Coast. Et finalement, pas d'inquiétude, le Cameroun est toujours pays organisateur de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais la visite d'inspection prévue puis annulée le mois d'août dernier sera organisée de nouveau.
Handball pour finir, tournoi des moins de 17 ans de la zone 2 et 3 en Afrique. Cotonou abrite l'événement.
Oui, et ce sera à partir de ce lundi pour prendre fin vendredi prochain à travers une conférence de presse. Le président de la Fédération béninoise de handball a donné plus de précisions sur cette compétition réservée aux joueurs cadets des équipes nationales de la zone 2 et 3. On écoute Antoine Bonou.
Il s'agit donc d'une compétition de développement qui vise essentiellement à offrir aux équipes cadettes des nations en développement un tournoi de haut niveau en dehors des compétitions classiques de la Confédération africaine de handball. C'est pourquoi, en dehors des matchs, une formation est donnée aux jeunes entraîneurs et arbitres des pays participants. Pendant la même période, il y aura un séminaire des directeurs techniques nationaux.
6 pays sont attendus, le Burkina Faso, le Ghana, le Mali, le Niger, le Togo et le Bénin. Premier match tout à l'heure à 9h, temps universel entre le Burkina Faso et le Togo, suivi juste après de la cérémonie d'ouverture. Et à 16h UTC, le pays hôte, le Bénin, va affronter le Niger.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Après la mort de 39 réfugiés burundais, dont des enfants et des femmes, récemment à Kamanyola, au sud Kivu, en République démocratique du Congo, on a du mal à comprendre. Côté burundais, beaucoup demandent l'ouverture d'une enquête pendant que l'on condamne ces tueries qualifiées de sauvages. Les Nations Unies et la HCR indiquent eux aussi qu'il est important de mener une enquête. De Bujumbura, notre correspondant Christophe Kurunziza.
Vendredi 15 septembre 2017, dans l'après-midi, à Kamanyola, au sud Kivu, l'armée congolaise tue 39 réfugiés burundais qui demandaient la libération de 4 des leurs. Le porte-parole du gouverneur du sud Kivu affirme que ces Burundais ont été tués dans des échauffourées avec la police. Bonhomme de Burundais, interrogé par la VOA Afrique, ne comprennent pas comment et pourquoi de telles sauvageries existent dans ce monde et condamnent énergiquement ces tueries.
Quand il y a des gens qui sont tués, c'est pas bien. Chaque Burundais devait se lever et dire non. Il est vraiment inacceptable que des gens qui devaient être protégés soient massacrés de cette manière. Il faut qu'il y ait une enquête pour savoir réellement ce qui s'est passé et que les responsables soient punis.
Arsène Dimouandi, tout en condamnant cet acte, ne comprend pas comment des réfugiés burundais peuvent être tués par des éléments de l'armée congolaise.
Nous déplorons la mort des 37 Burundais. Pour moi donc, la solution n'était pas vraiment de les tuer ou les tirer par balles réelles. Ils auraient probablement usé d'autres moyens pour maintenir ou contenir cette manifestation si, bien évidemment, c'était une manifestation ou à la limite, utiliser les gaz lacrymogènes. Il faut la lumière pour savoir pourquoi ces gens sont morts.
Ce père de plusieurs enfants, tout en condamnant de tels agissements, explique qu'il y a des similitudes avec ce qui s'est passé au Burundi il y a quelques années.
Est-ce qu'on les a tués parce que ce sont des réfugiés ou bien on les a tués parce que la RDC contre l'adepte de ces pays? Il y a des cas pareils, similaires qui se sont passés au Burundi. C'était à Rukago. Il y a eu des tueries, c'était autour de la même femme. Puis alors les gens se sont insurgés contre les forces de l'ordre. Le fait que le même cas est arrivé au Burundi, je comprends moi personnellement pourquoi c'est arrivé aussi au Congo. C'était des policiers. Au Burundi, c'était des policiers. La population s'est insurgée contre les policiers. Et au Congo aussi. Au Burundi, on les a tués. Au Congo, on les a tués. On n'a aucune raison de tuer les gens. Même au Burundi, moi aussi je condamne parce que nulle part au monde on trouvera des gens qui soutiennent qu'on tue les gens. Il y a d'autres façons de régler les choses sans faire des tueries.
Si l'incompréhension règne parmi les Burundais de la capitale, les HCR et les Nations Unies ont demandé qu'une enquête indépendante soit menée pour connaître les mobiles de ces tueries. Entre-temps, des réfugiés burundais urbains du Rwanda ont fait avant-hier une prière au centre Christus de Remera au Rwanda en mémoire des victimes et de plus de 100 blessés. Ils ont également prié pour la paix au Burundi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
En République démocratique du Congo, les professeurs de l'Université de Kinshasa et de l'Université pédagogique de la capitale ont entamé leur 4e semaine de grève. Ils demandent une revalorisation de leur salaire et veulent choisir leur recteur. Du coup, les cours et examens sont perturbés, nous dit notre envoyé spécial Abdourahmane Dia.
Contrairement aux médecins qui ont mis fin à leur mouvement de grève après un accord avec l'État, les professeurs d'université, eux, sont toujours à l'écoute du gouvernement. Ils demandent l'application des accords signés en 2010. Professeur Mathieu Bokolo est vice-président du syndicat des professeurs de l'université de Kinshasa.
Il fallait ramener le salaire à 2 000 $ et l'améliorer progressivement. Mais depuis 2010, l'amélioration n'a pas eu lieu. Mais par contre, les 2 000 $ s'effritent. Et suite à la dépréciation de la monnaie, nous ne sommes plus qu'à 1 100 ou 1 200 $. Et voilà que nous avons perdu pratiquement plus de 40% de notre pouvoir d'achat.
Les enseignants dénoncent aussi le manque d'investissement dans l'enseignement, ce qui a un impact négatif sur la qualité de l'enseignement. Professeur Bokolo.
C'est une situation très grave qui compromet même le développement du pays. Nous n'avons pas d'allocation de recherche. Nous n'avons pas d'allocation pour faire la documentation ou la diffusion de nos savoirs. Et ça pose un problème. Il n'y a rien, il n'y a pas de financement de la recherche, il n'y a pas de financement des équipements.
Les enseignements et le calendrier académique souffrent de ce bras de fer. Les étudiants essayent de faire avec cette incertitude.
Nous, on continue à travailler, à bosser. On ne sait pas si ça va aller jusqu'au bout ou quoi. Je ne sais pas. Aujourd'hui, on a commencé la deuxième session, mais je ne sais pas si ça ira jusqu'au bout. Mais ça nous affecte parce que les temps aussi de préparation et puis l'année aussi. Normalement, on commence le mois d'octobre, mais nous sommes au mois de septembre et octobre déjà. En faisant la deuxième session, on va entrer dans le mois de octobre, donc ça va pénaliser aussi le calendrier académique.
Mais son camarade Kadima est plutôt optimiste.
À mon avis, dans notre faculté de médecine, cette grève en fait n'a rien perturbé. Parce que normalement, on avait fini la première session. Maintenant, la deuxième session commence aujourd'hui.
Abdourahmane Dia, Kinshasa, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24h/24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
Au Burkina Faso, des réalisateurs et producteurs de cinéma ont bouclé au week-end une résidence internationale de formation. Une vingtaine de professionnels du cinéma ont pu, avec des mentors, développer leur projet au cours de la deuxième édition de Ouaga Films Lab. Des détails avec notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Pour la deuxième édition de Ouaga Film Lab, 10 réalisateurs et 15 producteurs sélectionnés pour la qualité de leur projet ont profité de 2 semaines de résidence en coaching et mentoring grâce à cette plateforme censée leur permettre d'acquérir la capacité d'accéder au nouveau mécanisme de financement du cinéma, souligne Ousmane Boundaouné, administrateur de Ouaga Film Lab.
L'Afrique de l'Ouest, notamment l'Afrique francophone, a été habituée à des guichets qu'on dirait traditionnels. Ces guichets se sont complètement taris et tout le monde dit qu'il n'y a plus de financement pour le cinéma. Or, des films se font ailleurs. Des pays émergent sur la scène cinématographique. Je pense notamment au Nigeria. Simplement qu'il y a d'autres mécanismes de financement en dehors des guichets traditionnels. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'à côté de ces formateurs, nous faisons venir les représentants de laboratoires internationaux, les représentants de fonds internationaux qui sont axés sur le cinéma, mais qui ne sont pas toujours accessibles.
Parmi les experts présents, le Burkinabé Gaston Kabouré, l'ancien lauréat de l'Étalon de Yenenga, explique sa partition.
Moi, je suis plus concerné par les projets de fiction, donc j'ai essayé de reposer les fondamentaux de l'écriture scénaristique de fiction et de mettre en exergue un certain nombre de règles de structuration. Mon travail consiste un peu à aider à aller plus loin dans la connaissance de son sujet.
La jeune réalisatrice Aïcha Maki espère bien décrocher le Graal avec son projet documentaire sur un thème très actuel.
C'est l'histoire de ma ville natale, Kizender, qui était pendant longtemps considérée comme havre de paix, mais qui, après la participation du président de la République à Paris pour l'événement Charlie Hebdo, est en train d'être étiquetée. Donc je cherche tout simplement à travers le moyen du cinéma de comprendre comment est-ce un havre de la paix peut migrer vers ce que des gens ont qualifié un fief de la radicalisation.
Les formateurs venus d'Afrique et d'Europe ont renforcé à travers un laboratoire de production les connaissances de ces jeunes producteurs à l'image de Karine Badou. Elle en a beaucoup appris, témoigne cette jeune productrice.
Les formateurs et les consultants partageaient leur expérience. Cela nous rafraîchit et nous fortifie que réellement, nous également, nous pouvons y arriver. Je suis venue avec le projet Dream in America, qui est un projet de long métrage qui retrace le parcours des étudiants étrangers aux États-Unis, en particulier dans la région de Boston, à travers l'histoire d'un jeune homme. Et ce projet est écrit par Serge Armel Sawadgo.
Ouaga Lab espère par ses rapprochements entre professionnels seniors et juniors, mais aussi des structures de financement, contribuer à l'émergence d'une véritable industrie culturelle et créative, porteuse de développement économique pour la jeune génération de professionnels du cinéma africain. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24h sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Sénégal, le gouvernement, pour désengorger la capitale Dakar et sa banlieue, a entrepris le prolongement de la voie dite de dégagement nord, la VDN. Ce projet qui couvre 26 kilomètres de route a déjà causé pas mal d'inconvénients à nombre de gens, dont les pratiquants de sport qui ont vu les travaux empiéter sur les aires de jeu. Cette situation a obligé ces derniers à se rabattre sur des terrains de fortune, nous dit de Dakar notre correspondant Sedina Abagay.
De l'unité 26 des parcelles assainies à Diamalaï, les terrains de football ont laissé place à un viaduc long d'un kilomètre. Abdouaziz, dirigeant de l'équipe de football des HLM Grand Médine, ne cache pas sa peine. Cependant, il estime que l'utilité publique prime sur tout.
Bon, ça va, actuellement on gère. Actuellement on gère tout. Bon, c'est un peu difficile, par exemple, quand on ne joue pas, on donne presque à chaque jour le moyen de transport. Mais je pense bien que, qu'on nous l'avait dit, qu'un jour il y aura la VDN qui va passer ici. Un peu difficile parce que là on est à côté de la mer, donc la VDN a pris le terrain, c'est ce qui est normal. Bon, on n'a pas le choix, hein. Franchement on n'a pas le choix quand l'État veut. Donc on est obligé de perdre, donc c'est ça.
Malgré les efforts pour continuer leurs activités, ces équipes rencontrent d'énormes difficultés.
Parfois c'est un peu difficile parce que en fait, quand il pleut, le terrain il est inondé. Hein. Donc parfois c'est un peu difficile, parfois on s'entraîne bon, à côté de la mer, parfois il y a des contraintes. Il paraît qu'il y a des litiges hein, là où on est actuellement. Il paraît qu'il y a des litiges. Bon, en fait, il y a des promoteurs à qui appartient en fait ce terrain.
Depuis le début des travaux de la VDN 2, les pratiquants du sport squattent les terrains vagues des quartiers ou les cours des écoles quand ils ne se retrouvent pas à la plage. Hassim Sen juge cette situation insoutenable.
Cette situation elle est très difficile parce que bon, nous n'avons plus de terrain à jouer, raison pour laquelle bon, nous sommes ici à l'école Unité 26 pour jouer. Aussi, avec l'approche de l'ouverture, je crois qu'il y a un grand problème que les AC puissent s'entraîner parce qu'il n'y a plus de terrain de jeu. Les terrains occupés par la VDN sont les terrains qui s'entraînaient, mais bon, puisqu'il n'y a plus de terrain, la plupart des AC s'entraînent à la plage. C'est un peu dangereux parce que bon, il y a les enfants aussi qui viennent là pour regarder l'entraînement de l'AC. Et aussi, il y a une danse aussi parce que il peut aller se baigner, se noyer, il y a tout cela.
Sur les 26 kilomètres qui constituent le prolongement de la VDN, le kilomètre qui se situe entre les parcelles assainies et Diamalaï prive les entités sportives et plusieurs centaines de jeunes d'aires de jeu. Ces pratiquants du sport ne peuvent plus vivre leur passion convenablement. Ils espèrent un accompagnement logistique de l'État pour continuer leurs activités sportives. Sedina Abagay, à Dakar, pour VOA Afrique.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur Onde Courte, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.